Je suis fier de vous annoncer que deux journalistes du quotidien Le Droit, je salue tous les gens du quotidien Le Droit, journal si important à notre région, qui ont accepté, vous allez entendre sur nos ondes à l'émission du matin, à l'occasion, entre autres, Mathieu Bélanger, qui est affecté à la couverture municipale, et aussi celle que vous allez entendre dans les prochaines secondes, Justine Mercier, avec qui on a eu déjà le loisir, le plaisir, l'honneur de travailler dans le passé, ici à la radio. Justine, qui est au quotidien Le Droit, bien sûr, et qui est affecté plus souvent qu'autrement dans les dossiers de la santé. On va aller lui dire bonjour tout de suite. Salut Justine, comment vas-tu?
Bonjour Michel, ça va bien, merci, toi?
Oui, ça va très bien. Tu ne dois pas être surprise parce que toi, tu as, si je comprends bien, épluché à peu près tous les rapports de coroner dans la région au cours des dernières années. Tu ne dois pas être surprise du bilan qu'on a dressé dans la presse du fait que l'Outaouais est le pire hôpital à travers le Québec.
J'avoue que j'ai pas été nécessairement surprise. Par contre, je tiens à souligner que la presse a aussi fait un travail colossal et a remonté jusqu'à 1998. Donc, ils ont épluché des rapports sur 20 ans. Moi, j'ai fait ça à deux reprises, en 2017 et en 2018, sur les rapports, les recommandations de rapports de coroner visant le réseau de la santé partout dans la province à partir du 1er janvier 2016. La méthodologie n'était pas exactement la même parce que ce qu'on avait présenté dans le droit, on incluait aussi les décès qui étaient survenus en dehors des établissements de santé. Si les rapports de coroner contenaient une recommandation qui visait le CIS ou une autre partie du réseau public de la santé. Donc, la première compilation que j'avais faite en décembre 2017, dans la foulée de la sortie d'un rapport assez difficile pour le CISO, on avait appris que entre le début 2016 et décembre 2017, le CISO avait été visé par des recommandations de coroner dans 9 dossiers. Alors qu'au deuxième rang, c'était le Bas-Saint-Laurent avec 6 dossiers. Après ça, ça déboulait.
Alors, ça venait confirmer la tendance et ce que, dans le fond, on nous a appris au cours des derniers jours sur une plus longue période avec une différente méthodologie. Ça venait confirmer les chiffres, les textes que j'ai relus d'ailleurs hier soir. Puis c'était carrément ça que tu nous apprenais. C'est que quand on regardait les dossiers où il y avait des recommandations de coroner, l'Outaouais arrivé au premier rang, malheureusement, à travers le Québec. Et à ce moment-là, je veux savoir un peu comment avait réagi la direction du CISO à l'époque, Justine, toi qui es habituée de les côtoyer, là, est-ce qu'on voyait ça venir? Est-ce qu'on le savait? Comment on réagissait face à ça?
En fait, moi, j'ai sorti la recension que j'avais faite quelques jours après avoir publié le contenu d'un rapport assez dévastateur sur le décès de Marc-André Maxwell, dont on pourra reparler plus tard. Mais en réaction à la publication du rapport sur le décès de M. Maxwell, le CISO avait fait une conférence de presse, avait dit qu'il n'y avait pas de recensement qui se faisait, à savoir s'il y avait plus de rapports ici qu'ailleurs, visant le CIS que d'autres établissements de santé de la province. Et l'ancien PDG du CIS, Jean Hébert, avait même dit que la couverture média de la région était particulière et que peut-être qu'ici, il y avait des journalistes qui étaient plus dédiés à ces événements-là. Il avait dit que c'est pas mauvais non plus parce que ça permet d'alerter la population sur ce qui se passe dans l'établissement de santé. Mais bref, le lendemain de ces déclarations-là, on avait publié la compilation qui montrait qu'effectivement, le CIS n'est pas dans la plus belle partie du classement.
C'est que dans le fond, on t'envoyait un message parce que la journaliste qui était affectée à la santé, c'était toi. Puis on disait, ben, il n'y en a pas de compilation. Puis le lendemain, tu publiais ton palmarès. Puis évidemment, l'Outaouais ne reluisait pas dans ce rapport-là. C'est quoi les pires cas que tu as vus, toi, Justine, des rapports de coroner que tu as épluchés ici dans la région de l'Outaouais? C'est-tu des cas dans les hôpitaux ou c'est des cas à l'extérieur, parce que dans ta méthodologie à toi, c'est pas juste les gens qui ont été victimes d'une erreur à l'hôpital, il y en a d'autres qui, pour toutes sortes de raisons, sont morts à la maison, mais qui sont pas compilés là-dedans.
Il y a certains cas, évidemment, de morts à domicile ou ailleurs. On parle, entre autres, de cas pour lesquels les coronaires ont recommandé une révision de la prise en charge. Par exemple, monsieur qui avait un problème cardiaque, puis le coroner a souligné que le suivi a peut-être été déficient. mais il y a des cas aussi de décès qui sont survenus en milieu hospitalier qui sont qui frappent l'imaginaire un peu. Je peux penser à De Salle Gauthier. C'est un homme de 75 ans qui est décédé à l'été 2015. Sa femme Aline Breton-Gauthier m'avait confié qu'il avait vécu une semaine de calvaire, ce sont ses mots, avant de mourir. C'est un monsieur qui souffrait déjà de la maladie de Lou Gehrig, qui a chuté, qui a subi une fracture de l'humérus. Et après la publication de l'article dans Le Droit, le coroner Pierre Bourassa avait lancé une investigation. Il avait conclu que M. Gauthier avait dû attendre 20 fois plus longtemps que le délai prescrit pour un médecin à l'urgence de l'hôpital de Gatineau. Et il l'avait qualifié d'une des pires du monde occidental pour les délais de soins. On en parlait aussi tantôt, Marc-André Maxwell. C'est un homme qui est décédé en décembre 2015 à l'hôpital de Gatineau. C'est un décès qui avait été qualifié d'évitable par la coroner Pascal Boulay. Lui, il a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire parce qu'il s'est asphyxié avec ses propres sécrétions, mais il y avait un préposé aux bénéficiaires à côté de lui dont le mandat était d'assurer sa surveillance en tout temps. Donc, dans ce dossier-là, la coroner avait identifié plusieurs déficiences à de multiples niveaux.
C'est incroyable parce que ce matin, on se demande pourquoi il y en a eu autant. Et est-ce qu'il y a une constante que tu as constatée, toi, dans les recommandations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient souvent qui pourrait peut-être nous éclairer sur qu'est-ce qui s'est passé pour ces nombreux cas qui ont été répertoriés ici dans l'Outaouais?
Bien, chaque cas est vraiment unique, mais je sais que dans certains rapports, ce qui revient à quelques occasions, ce sont des déficiences au niveau des soins infirmiers, infirmières auxiliaires. On parle de notes incomplètes et tout. Est-ce que c'est systématique à travers le CIS? Je suis loin de pouvoir dire ça, mais ça a été soulevé à quelques reprises dans des rapports de coroner qui recommandaient d'ailleurs que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec analyse là, les dossiers pour évaluer la qualité des actes professionnels. Mais ça peut prendre plusieurs années là, auprès des ordres professionnels. C'est la même chose lorsqu'un dossier est envoyé au Collège des médecins.
OK. Il y a eu beaucoup de choses, là, puis on ne va pas refaire l'histoire ensemble, mais il y a eu beaucoup de changements dans la région par rapport à la gestion des hôpitaux. Là. Les organismes se sont suivis, fusion, diffusion, etc. Dernière question, Justine. Puis je pars du commentaire de Roch Cholette tantôt, puis de la citation de Nicolas Gillot au CISO. As-tu déjà entendu parler, toi, dans les dernières années, de regrouper tous les services sous un même toit? Est-ce que ça a déjà été dans quelconque discussion que tu as eue avec quelconque autorité au CISO un semblant d'idée que quelqu'un t'a déjà parlé?
Il y a eu des discussions, je ne sais pas à quel niveau c'était formel, pour parler d'un méga-hôpital qui regrouperait Hull, Gatineau et peut-être des lits supplémentaires. On sait que la CAQ a promis d'ajouter 170 lits de soins de courte durée dans la région. Par contre, qu'est-ce que la CAQ va faire? On attend le dépôt de la nouvelle version du plan clinique du CIS de manière imminente pour voir ce que la CAQ va faire avec ça. On s'entend qu'ils ont promis un nouvel hôpital prêt à soigner ou un agrandissement d'ici 5 ans à partir de leur élection, ce qui nous mène en 2023. Donc, il va falloir que les choses bougent rapidement. Mais bon,
alors, ça a été vague.
Il y a d'autres changements. On n'en sera pas au premier changement dans le réseau de la santé de l'Outaouais.
Ouais. Donc, toi, là, qui as couvert ça régulièrement, à part quelques discussions, tu n'as jamais entendu parler de regrouper tout ça puis de faire un super hôpital. À part quelques discussions, il n'y a pas rien de formel qui t'a été confié par des gens en autorité à ce moment-là.
Mais c'est ce qu'on pourra voir dans le fameux plan clinique que le ministère de la Santé a demandé au CIS. Ce plan clinique-là doit définir les besoins de la région, tant en matière de services qu'en matière d'infrastructures pour les prochaines décennies. Il doit y avoir des scénarios proposés là-dedans pour ajouter 170 lits. Donc, c'est là qu'on verra quels sont les scénarios, là.
Justine, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. On va avoir l'occasion de s'en parler, c'est clair. Merci beaucoup.
Merci.
Justine Mercier du quotidien Le Droit, que vous pouvez lire évidemment quand il est question de santé, entre autres. Elle est branchée et je vais vous le dire honnêtement comme ça, à chaque fois qu'il y a un scoop dans le domaine de la santé, c'est elle qui est derrière ça. Alors vous allez l'entendre régulièrement ici au 104.7 à que l'Outaouais se lève. Restez là dans quelques instants, c'est une entrevue coup de cœur avec quelqu'un que j'aime beaucoup et qui pose un geste assez extraordinaire. Avez-vous entendu parler du Café Cheval? Ben, c'est Louis-François Marcotte, oui, le grand chef que vous voyez à la télé, et sa conjointe Patricia Paquin qui ont lancé ce café-là, et on reçoit Louis-François Marcotte en entrevue dans quelques instants.